toca a ti, toca a ti. Toca a ti.
Bonsoir. 44 combattants Mai Mai faits prisonniers samedi dernier. Plusieurs villages bombardés. Des dizaines de milliers de civils déplacés. Le combat au nord Katanga a augmenté d'intensité depuis la semaine dernière. Il y a exactement 2 semaines, la FRDC a lancé une offensive militaire contre les Mai Mai de commandant Gédéon. Plusieurs villages sont maintenant sous contrôle gouvernemental. Gédéon et ses troupes ont refusé de rejoindre le processus d'intégration de l'armée. Ce commandant dispose de quelques 700 à 1000 hommes qui avaient sous leur contrôle le territoire de Mitwaba, de Poeto et de Manono au nord Katanga. Comment se passent réellement les opérations sur terrain, opérations conduites par les éléments FARDC exclusivement? À au moins 1 mois de la tenue du référendum, quelle incidence ces attaques peuvent avoir sur l'ensemble du processus électoral? Dialogue entre Congolais reçoit ce soir au studio de Radio Okapi Jacques Ebenga, expert en questions de défense et de sécurité. Au téléphone, Fulgence Muteba, évêque de Kilwa, qui interviendra dans cette émission depuis la ville de Lubumbashi.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par SMS, composez-le 081 051 57 78.
Nous tenons d'abord à prier nos auditeurs qui envoient leurs questions ou leurs opinions d'indiquer la ville d'où ils envoient leurs messages et bien marquer leur nom. Nous recevons de plus en plus de SMS des auditeurs anonymes, ce qui ne donne pas à leurs questions toute leur importance. Nous vous suggérons donc de bien signer le message que vous nous envoyez. Offensive des FARDC contre les Mai Mai de Gédéon dans le Nord Katanga, qu'est-ce qui se passe réellement sur terrain? Paul Kaboba, Georges Kamoujouva.
Paul Kaboba, bonsoir.
Bonsoir, Georges Kamoujouva.
Ça fait 2 semaines que les FARDC mènent des offensives sur les miliciens du Nord Katanga. Quelle est la situation sur le terrain actuellement?
Je dois d'abord vous signaler que la zone des combats est située à près de 500 km de Lubumbashi. Lubumbashi, c'est la ville où je me trouve actuellement. Ensuite, je voudrais que les sources officielles ne s'expriment pas sur ce qui se passe réellement dans ce qu'on appelle le triangle de la mort, c'est-à-dire l'axe Mitwaba, Poeto, Manono. Néanmoins, quelques informations parviennent quand même dans différentes rédactions de la capitale plus précises.
Et quelles sont les dernières nouvelles?
Hier, nous avons pu observer l'arrivée de 44 prisonniers que les FARDC ont ramenés jusqu'au quartier général de la 6e région militaire. Ils étaient au départ 45, un serait mort en cours de route de maladie. D'autre part, le samedi, 3 blessés civils ont été évacués par la Croix-Rouge internationale vers Bukavu. C'est ce qui est un signe peut-être que quelques accrochages sérieux ont pu avoir lieu dans ce secteur.
Eh oui, Paul Kaboba, est-ce que ces Mai Mai représentent vraiment une menace pour la province du Katanga?
Je ne pense pas que les Mai Mai de Gédéon ou de tout autre chef de guerre au Katanga puissent avoir les capacités et les ressources pour mettre en danger les institutions de la province. Mais dans la mesure où ils tiennent des populations entières en otage, le fait qu'ils obligent des milliers d'autres à vivre loin de chez elles, je pense que l'on peut les considérer comme des menaces pour la paix dans la province.
Mmh.
En outre, ces Mai Mai empêchent les paysans et les pêcheurs de venir vendre leurs produits dans les centres urbains. Il faut dire que Gédéon et ses hommes occupent pratiquement une zone qui représente le grenier agricole de la province, d'où une certaine rareté de produits vivriers, notamment Lubumbashi. On peut parler ici du poisson salé qu'on appelle bitoyo, que beaucoup de gens connaissent, les cossettes de manioc, du maïs et les frétins. En outre, je vous dirais, Georges Kamoujouva, que ces Mai Mai ont empêché une bonne part des populations de ce secteur de s'enrôler. Je vous propose un extrait de l'interview que nous avait accordé le coordonnateur de la CEI Katanga une semaine avant l'attaque des FARDC.
Le problème maintenant, c'est la population qui devra quitter l'intérieur pour venir se faire identifier, comme du côté de Cheferie Kayumba, dans les Malembankulu. La population évite de bouger parce que tout simplement, le chef Mai Mai promet de brûler le village. Alors nous avons mis un système de s'approcher le plus près possible de la population.
Je rappelle, Georges Kamoujouva, que le coordonnateur de la CEI, M. Albert Kisimba, nous avait accordé cette interview une semaine avant le déclenchement des hostilités. Je pourrais ajouter qu'il y a une semaine, les militaires qui revenaient du front disent que la majeure partie des habitants des villages libérés n'ont pas de carte d'électeur.
Merci Paul Kaboba et vous restez avec nous.
Voilà, c'était l'entretien que notre confrère Georges Kamoujouva a eu tout à l'heure avec Paul Kaboba sur place à Lubumbashi. On commence ce dialogue entre Congolais avec vous, Monseigneur Fulgence Muteba. Je rappelle que vous êtes évêque de Kilwa, au nord de Katanga, où se passent actuellement des opérations militaires. notre confrère Paul Kabouba vient de relever qu'il n'y a pas assez d'informations. Est-ce que vous, au niveau de Lubumbashi, vous vous trouvez, est-ce que vous connaissez quand même des choses qui se passent sur terrain?
Eh bien, je suis en contact permanent avec les services diocésains qui sont basés dans la paroisse de Douguier. C'est la dernière paroisse que nous pouvons encore fréquenter du côté du nord, qui nous sépare du diocèse de Manono. Alors, il y a eu afflux de déplacés dans cette paroisse, et déjà quand j'y étais il y a un mois pour les confirmations, j'ai pu moi-même constater qu'il y avait une forte concentration de la population au point que la place pour les loger manquait. Il y a des camps qui ont été ouverts, des camps de fortune. J'ai pu moi-même constater la misère qui frappe ces déplacés de guerre. Je dois avouer que c'était avant le déclenchement de l'attaque ultime des FARDC dans la région. Et si cette attaque a été lancée, c'est justement suite à cet afflux massif déjà avant cette attaque. Et cet afflux était dû justement à toutes les rumeurs troublantes qui circulaient au sujet d'une mission de bons offices qu'avait effectué un prêtre du nom de François Dicoulereau et son ami Simon, qui ont été sauvagement abattus.
Monseigneur Fulgence,
nous sommes en contact avec les services de ces gens qui sont sur place. Et les informations que nous recevons sont des informations qui nous viennent d'abord de Doubié et puis de l'autre paroisse qui est également concernée, qui est la paroisse de Mitoba.
Alors, vous venez de dire qu'il y a une forte concentration de la population qui se déplace, qui fuit la guerre. Mais à combien estimez-vous justement ce nombre de déplacés?
Eh bien, du côté de mon diocèse, on doit parler facilement de 40 000, à peu près 40 000 personnes. Déjà avant le déclenchement des opérations, rien qu'à Doubié et les villages environnants, il y avait 16 000 personnes. Et depuis le déclenchement de l'attaque, on a noté l'arrivée d'à peu près 4 000 personnes, sans compter les gens qui sont dans des villages qui ont été libérés, comme l'a dit Paul tout à l'heure. Et dans le nord, un peu plus au nord, dans les diocèses de Manono, notamment à Pianamwanga, on nous a dit qu'il y avait 12 000 personnes. Alors quand vous comptez, quand vous faites le total, nous envoisinons à peu près 60 000 personnes qui ont été déplacées par des hostilités et par la férocité justement de ces forces Maïmaï. À Zuba, nous avons également un petit nombre, à peu près 250 familles. Et à Pueto, depuis pratiquement le mois d'août, il y a eu effectivement l'arrivée d'à peu près 1000 familles. Voilà un tout petit peu quelques chiffres que nous avons. Je dois avouer quand même que tout le monde qui est en déplacement n'est pas enrôlé. Il y a Médecins sans frontières qui se trouve à Doubié et qui n'enregistre qu'à Doubié. Mais selon les informations que nous avons reçues, et il y a des gens que nous avons envoyés dans des villages en voisinant, il y a autant de monde en brousse dans des villages qui ont été libérés parce que tout le monde ne peut pas venir à Doubié.
Mais justement, alors, à part ces informations, ces données chiffrées que vous avez sur le déplacement de gens, quelle autre information vous disposez de ce qui se passe là-bas en rapport avec les opérations militaires lancées contre les Maïmaï?
Bon, vous savez, pour les en ce qui concerne les informations de stratégie militaire, je dois avouer que nous n'en avons pas du tout. Mais sinon, nous sommes tenus au courant du fait du mouvement des Maïmaï vers le parc de Lupemba. Et justement, ce que nous redoutions, parce que nous avons eu l'impression que du côté de Mitoba, le front n'était pas suffisamment consolidé.
Monseigneur Fulgence. Monseigneur Fulgence, pour aider nos auditeurs qui se trouvent dans d'autres milieux, vous pouvez situer les villages par rapport à Lubumbashi, si c'est au nord, si c'est au sud, par rapport à Lubumbashi, pour aider nos auditeurs à se faire l'image de villages et de territoires que vous citez.
Eh bien, merci beaucoup. Doubié se trouve dans le nord de Lubumbashi et Mitoba est dans le nord-est. À peu près de Doubié, et la zone que nous appelons le triangle de la mort se situe entre Kilwa vers le nord, entre Kilwa et Manono. Alors si vous avez une carte, vous voyez tout de suite qu'il s'agit pratiquement du centre du Katanga. C'est, nous sommes presque à cheval, du moins les deux paroisses dont j'ai parlé, c'est-à-dire Doubié et Mitoba, sont presque à cheval sur la ligne qui sépare le nord et le sud Katanga.
Mais alors, est-ce que vous êtes en contact certainement avec les déplacés, puisque vous venez de dire, vous venez de reconnaître qu'ils sont au niveau de vos diocèses, ils fouillent au niveau de vos diocèses. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Quelle est leur interprétation par rapport à ces offensives lancées dans leur territoire?
Eh bien, l'impression qu'ils nous donnent, c'est qu'ils sont soulagés, parce que ce sont des populations qui ont été prises en otage depuis des années. Et l'arrivée des FARDC dans leur village a été comprise comme étant une véritable libération. Et il y a aussi, comme Paul l'a souligné tout à l'heure, cette envie de pouvoir voter, et ils étaient complètement mis hors du jeu électoral. Et maintenant, ils réclament une seule chose, être assistés sur le plan humanitaire et être enrôlés. Et nous sommes en train de mener des démarches pour que, une fois le calme revenu, même s'ils sont encore des déplacés, qu'on puisse prendre des dispositions pour qu'ils puissent se faire enrôler et identifier.
Et vous êtes maintenant, et vous intervenez dans cette émission depuis Lubumbashi, je le rappelle. Qu'est-ce qu'au niveau de Lubumbashi, vous avez pris comme contact auprès des autorités militaires pour savoir exactement les objectifs des FARDC et les opérations qu'ils mènent là-bas?
Eh bien, nous tentons de garder notre indépendance parce que, comme vous le savez, il n'appartient pas à l'Église de poser des questions d'ordre stratégique aux militaires. Mais nous nous intéressons un peu plus à obtenir de l'aide humanitaire au profit des déplacés de guerre. Alors, comme la capitale du Puy-Faire est réputée pour la présence de certaines agences humanitaires, alors je suis en contact avec toutes ces agences humanitaires et nous tenons des réunions pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter de l'aide humanitaire à tous ces déplacés de guerre.
Vous restez avec nous, Monseigneur Fulgence Muteba, en rentrée ici au studio. Je rappelle que vous intervenez dans cette partie d'émission depuis Lubumbashi. Colonel Ebenga, vous avez entendu en tout cas ce qui se passe là par l'entretien que notre confrère Georges Kamujova a eu avec Paul Kaboba, et aussi par cet entretien que je viens d'avoir avec Monseigneur de Tiloa, Monseigneur Fulgence Muteba, qui se trouve actuellement à Lubumbashi. Une opération militaire bien accueillie par la population, mais il y a quand même une conséquence humanitaire qui s'ensuit. Comment vous interprétez?
Oui, j'aimerais d'abord déplorer la langue de bois qu'affiche le ministère de la Défense devant cette situation. J'étais heureux il y a quelques jours d'entendre le chef d'état-major général annoncer le déclenchement de cette opération. Mais il ne suffit pas d'avoir déclenché l'opération, il faut encore qu'on tienne la population informée. Il ne faut pas que ce soit les points de presse de la MONUC qui viennent nous dire ce que c'est pas dans notre pays tous les jours. Nous devons avoir, je crois, des autorités, une mise au point régulière sur la situation des opérations là-bas et des conséquences humanitaires auxquelles vous faites allusion. Il est vrai que quand nous considérons le nombre de déplacés que Monseigneur Fulgence a eu l'amabilité de communiquer, dans son diocèse, il y a tant de cas déplacés. Quand vous montez vers le nord, vers le lac Upemba, là-bas, qui est Konja, Malebakoul et autres, vous avez certainement là-bas également un nombre important de déplacés. Je connais la région, j'y étais quand j'étais à l'armée. Il y a effectivement un grand risque qu'autour de lac Upemba, se consolide une action de déstabilisation permanente, d'insécurité permanente. Parce que je ne sais pas si les troupes congolaises qui sont envoyées là-bas, les FARDC, disposent de zodiac et de matériel pour sillonner le lac Upemba, qui peut constituer là-bas une base, disons, lacustre, importante pour ces délinquants armés. Donc, il faut toute une conception globale de l'opération. J'espère que l'état-major général l'a faite. Opération terrestre et lacustre à la fois, tant sur le lac Tanganyika, on a parlé de Mulero et tout ça là-bas, de Moba, que sur le lac Upemba. De manière que les groupes armés qui sont recherchés, qui sont traqués, ne puissent pas se déplacer d'une zone vers l'autre en gardant leur équipement et leur armement.
Vous venez de relever ce problème de manque d'informations. L'armée ne communique pas, lance des opérations, mais ne communique pas. On voit un grand nombre de déplacés. Est-ce qu'on peut lier ces deux faits? Est-ce qu'on peut dire c'est parce que les gens n'ont pas été préparés, les gens n'ont pas eu de l'information qu'aujourd'hui on assiste à ces déplacements en masse de cette population désemparée?
Évidemment, quand il n'y a pas d'éléments d'information pour rassurer la population, pour ne plus que circonscrire les zones d'opération, pour que la population sache que voilà, l'armée vient de tel côté, je peux me réfugier de tel côté. Elle peut se trouver même aux prises entre deux forces armées, ne sachant pas lesquelles sont les forces qui leur sont favorables, qui sont pour leur sécurité. Donc ça peut créer là-bas des situations telles que la population éviterait parfois même de se trouver sur la ligne, de front, et ça c'est ce qui arrive, pour chercher à aller aussi loin que possible de leur milieu d'habitation. Et cela crée des mouvements de population avec toutes les conséquences humanitaires qui s'en suivent. Et là aussi, les précautions n'ont pas été, je crois, prises suffisamment. Et là, nous concourons vers une mini-catastrophe humanitaire, si on peut qualifier ça comme ça.
Nous informons nos auditeurs que nous devrions avoir dans ce dialogue entre Congolais le chef d'état-major de l'armée qui nous avait confirmé sa participation dans cette émission, mais qui, en raison de sa dernière réunion qui s'est prolongée tard dans la soirée, il n'a pas pu. Et donc, nous continuons ce dialogue entre Congolais donc avec Jacques Edenga, je rappelle, il est expert en questions militaires et questions de défense et de sécurité. On vient là de voir des conséquences probables de manque d'informations par rapport à la population, par rapport à l'opinion nationale. Mais est-ce qu'il y a lieu de penser que c'est à un but stratégique que l'armée a refusé de communiquer dans ces cas précis et concrets de notre Katanga?
L'information, je crois que les chefs de l'armée et de la défense savent très bien qu'il y a l'information stratégique et il y a l'information générale. Quand on a fait des prisonniers et qu'on les achemine vers Lubumbashi, comme on vient de nous dire, 44 prisonniers, bon, ben, il faut bien qu'il y ait un communiqué officiel qui dise, voilà, nous avons fait autant de prisonniers, nous avons eu autant de blessés, et ainsi de suite. Ça, au moins, ça pourrait donner déjà une indication de ce que l'armée est engagée à faire dans cette partie du pays. Bon. Il faut peut-être même rassurer les populations pour dire, écoutez, nous sommes appelés la population au calme, disons, à la sérénité. Ils sont libérés, oui, mais ils doivent avoir le sentiment de l'être anticipativement quand une armée vient. Mais eux, ils sachent que ça, c'est l'armée amie, c'est l'armée nationale du pays qui vient les libérer. Il ne faut pas qu'ils soient surpris, parce que dans cette surprise, ils peuvent tomber dans les mains de justement des autres qui peuvent également se faire passer pour cela, pour arnaquer la population et la maltraiter. Donc tout ça, ça doit être quand même pris en considération. Et je crois qu'une communication est toujours utile dans l'armée. On a vu dans d'autres pays, la communication est toujours donnée. Il faut savoir trier ce qu'il faut dire à la population, qui ne mettent pas en cause les opérations.
Les auditeurs nous envoient leur opinion. Rama de Uvira, au sud Kivu. Nous encourageons cette opération, mais à quand une autre opération pareille à Minembwe ou il y a aussi de tels désordres. Romain Chibang de Lubumbashi au Katanga, il n'y avait pas un autre moment pour faire la guerre à Gédéon, c'est maintenant ou jamais, quelles qu'en soient les conséquences. Rupini Udiga Mahadi, négocier avec Gédéon était la meilleure solution pour ne pas perturber la tenue du référendum. C'est en tout cas jusque-là les opinions de nos auditeurs. On rentre encore à vous, Mgr Fulgence Moutiba, on vous fait réagir par rapport à ces opinions de nos auditeurs qu'on vient de lire. Pour un auditeur de Uvira, c'est une bonne opération, il faudrait l'étendre sur des parties sensibles du territoire, mais pour d'autres auditeurs, l'important maintenant c'est les élections qu'il faut préserver, qu'il ne faut pas perturbé. Alors, vous croyez que les attaques là-bas pourraient avoir une incidence sur la stabilité de territoire là-bas où vous êtes?
Nous pensons qu'il était temps, effectivement, pour qu'on puisse pacifier cette partie du Katanga, dans la mesure où les Congolais qui y habitent sont des Congolais à part entière et pas entièrement à part. Alors, ils ont droit, effectivement, à participer au processus électoral. Alors, nous avions lancé un cri d'alarme, justement, à l'endroit des responsables de la chose publique, pour que toutes les dispositions soient prises, pour que ces gens puissent avoir la possibilité de voter. Notez que ce sera les premières élections vraiment démocratiques dans notre pays. Alors, nous pensons qu'il a fallu, effectivement, qu'on puisse leur donner aussi la possibilité de voter. Mais par-delà le vote, je crois qu'il y a un besoin réel de paix. Hein, vous savez, la guerre a pris fin il y a longtemps et la partie nord de mon diocèse n'a jamais vraiment connu la paix. Alors qu'on parle de passage de l'armée, mais en fait, il y a quand même quelques unités qui sont... Oui.
Monseigneur Fulgence, avant d'entrer justement dans cet aspect de choses, vous venez de relever qu'il était temps qu'on puisse le faire, mais comment expliquer justement que depuis longtemps on n'a rien fait et qu'on le fasse simplement pendant ces moments des opérations? C'est ça la question des auditeurs.
Ça, je pense que c'est une énigme. Évidemment, ce que je peux déplorer, c'est qu'il y a eu depuis longtemps une espèce d'omerta sur la question des Maïmaï au Katanga. Et il est très difficile d'avoir une réponse à cette question. Je crois qu'il n'y a que des responsables politiques qui peuvent y apporter de l'éclairage, la lumière nécessaire. Mais ce que je constate, c'est que, bon, depuis que l'Église du Katanga s'est impliquée dans ce problème, parce que notez qu'il y a 5 diocèses qui sont concernés par cette situation, eh bien, les choses sont allées plutôt vite et nous nous en réjouissons. Et nous pensons qu'il était temps pour qu'on puisse pacifier cette partie du Katanga.
On va rentrer ici pour avoir aussi l'avis de colonel Benga. Je rappelle qu'il est expert en questions de défense et de sécurité, un colonel en retraite. Par rapport justement aux opinions d'auditeurs qu'on vient de lire tout à l'heure, quel est votre avis, quelle est votre réaction?
Monseigneur a parlé d'énigme quant à savoir pourquoi il y a eu retard dans le dispositif à prendre pour le dispositif à prendre contre les Maïmaï du Nord Katanga. L'explication existe. Nous qui faisons des analyses, nous la connaissons et les informations que nous avons indiquent que ces Maïmaï ayant été armés par le gouvernement, l'ex-gouvernement de Kinshasa, qui avait armé ces miliciens, ces Maïmaï pour résister à l'invasion rwandaise et au RCD, se trouve gêné de combattre ceux qu'il avait armés hier. Et cela est un peu gênant d'aller combattre son propre fils en quelque sorte, parce que vous l'avez crié, vous l'avez nourri et vous lui avez donné toute la logistique pour mener la résistance. C'était des résistants. Bon, alors, ses fils se sont dévoyés et ont tourné un peu aux bandits, un peu comme dans le film Apocalypse Now. Rappelez-vous ce colonel fou qui a quitté l'armée américaine, qui est devenu fou et qui faisait des rapines dans le Cambodge. En fait, c'est un peu ça. Donc, ce sont des soldats perdus qu'on ne contrôle plus. Et le gouvernement, l'ex-gouvernement, ou l'armée en tout cas, se trouvait gêné quant à mater les gens qu'il avait hier créé. Donc c'est cette gêne-là qui a pris tout ce temps. Et la MONUC a eu même difficile à soutenir l'idée d'une action militaire sur le Nord Katanga.
Ah, il y a une question des auditeurs par rapport justement à cette analyse. Alain Bahati de Goma au Nord Kivu, comment expliquer cette offensive contre Gédéon alors qu'on a entendu parler d'une opération vélo contre armes? Dans cette zone, il y a eu cette opération de change vélo-armes pacifique pour justement réduire la capacité offensive de ces Maïmaï.
Exact. On a préféré cette négociation là. On a préféré cette voie-là par cette ONG que vous connaissez, du pasteur Moulunda, je crois. C'est une idée qui est venue. On a préféré la voie de la récupération pacifique des armes que la voie de la démilitarisation, du désarmement forcé, comme cela s'est passé en Litorie. Parce que précisément, on avait des acquaintances, on avait des affinités envers ces militaires. Rappelez-vous que l'un d'eux, Chinga Chinga, est venu ici réclamant le poste de général. Donc, il se sentait en condition morale de réclamer un tel poste. Donc, il n'était pas du tout gêné par les crimes qu'il avait commis là-bas, parce qu'il se croyait être le produit du gouvernement. Vous savez que le gouvernement avait parachuté des armes là-bas, par Mouliro, on connaît ces épisodes. Tout ça, c'est du passé, mais en tout cas, c'est cela qui lie un peu moralement le gouvernement à ces rebelles, et qui a gêné le début des opérations jusqu'ici.
GG Dolphin de Badolité à l'Équateur pose sa question justement par rapport à cette analyse, colonel Ebenga. D'où ces Maïmaï trouvent-ils ces armes lourdes et les munitions alors qu'ils sont à l'intérieur du pays? Est-ce que on peut dire que l'essentiel d'arsenal utilisé par les Maïmaï, c'est qu'ils ont hérité de l'ex-gouvernement ou ils sont toujours en train d'être réapprovisionnés? Il y a un réseau de réapprovisionnement en armes.
Ils ont été approvisionnés jusqu'en 2001. Lorsque le président Joseph Kabila est arrivé en fonction, il a suspendu. Mais par après 2002, cela a repris au début de 2002, parce que précisément, il y avait une volonté de contenir le RCD avant d'aller au dialogue. Donc il fallait à tout prix être en position de force. Et c'est là que vous connaissez l'incident de Mouliro, parce que le port de Mouliro sur le lac Tanganyika a été le port par lequel transitaient les armes à destination de ces Maïmaï du Nord Katanga. Et d'autres œuvres qui venaient de Tanzanie, de Kigoma, transitaient par les ports du Sud Kivu et Wabora et redescendaient vers le Nord Katanga. Tout cela, il y a eu des études que nos équipes ont faites et cela est démontré, ça n'a jamais été démenti par personne. On a même cité des noms des officiers qui parachutaient des armes au Nord Katanga. Il n'y a jamais aucun démenti à cela. Donc, c'est une situation qui existe et qui, à mon sens, gêne le gouvernement quant à mener les opérations. Mais les armes parachutées et livrées par voie lacustre, ça, c'est une réalité.
Monseigneur Fulgence Moutéba, je rappelle que vous êtes évêque de Tiloua, qui vous intervenez.
Et j'ajouterais cette... qu'il y a eu même des connexions avec les FDL du Burundi, hein, qui ont aussi, à leur tour, appuyé ces Maïmaïs dans la lutte contre le RCD à l'époque.
Je reviens maintenant à Monseigneur Fulgence Moutéba. Je rappelle que vous êtes évêque de Kilwa et vous intervenez dans cette émission depuis la ville de Lubumbashi. Quel sens, justement, donnez-vous à cette opération armes contre vélo? Est-ce que c'était le refus du gouvernement de combattre ceux qu'ils ont armés, de l'ex-gouvernement du moins, ou c'était un geste de bonne volonté pour apaiser le climat de guerre au Nord Katanga?
Eh bien, bon, moi je pense que c'est une approche que je considère comme étant partielle. Évidemment, il faut remonter dans l'histoire pour comprendre de quelle manière on a pu privilégier finalement cette approche. C'est-à-dire qu'il fut un moment où les Maïmaï de Gédéon n'étaient pas du tout aussi dangereux qu'ils paraissent l'être maintenant. Et au début, c'était des amis de la population. Ils défendaient même la population contre les exactions des militaires du gouvernement. Et tout d'un coup, ils ont tourné Kazakh, comme l'a dit l'expert militaire tout à l'heure. Et ils sont devenus, ils ont adopté un comportement complètement voyou. Et c'est ainsi que, considérant ces éléments de l'histoire, je crois que le gouvernement avait privilégié cette arme, cette opération d'armes contre les vélos.
Mais si on sait que cette ONG de Pasteur Mulunda, on le sait, il travaille avec le président, et est-ce que ça ne crée justement pas cette idée-là d'un ex-gouvernement qui cherche un autre moyen de résoudre ce problème des Maïmaï qui devenait de plus en plus menaçant pour la paix et la sécurité au Katanga? Au lieu de les traquer justement par les armes, il aurait dû le faire depuis longtemps.
Évidemment, je crois qu'à l'époque, au début, je dois avouer personnellement que, selon mon analyse personnelle, c'était une opération qui n'était pas complètement folle, dans la mesure où une opération militaire allait mettre la vie des civils en danger. Alors, je crois que les hommes du gouvernement avaient privilégié cette opération plutôt pacifique, mais malheureusement, il s'avère que cette opération s'est faite de manière isolée, parce que si elle était intégrée dans l'opération du DDR et puis de la CONADER, je pense qu'elle aurait pu avoir une certaine efficacité. Parce que les gens qui ont évolué dans une logique de la violence, eh bien, il ne suffit pas de leur donner un vélo pour qu'ils puissent changer de comportement.
Mais c'est ça justement, d'ailleurs, est-ce que c'est là qu'ils ne montrent pas qu'il y a eu une accointance qu'on veut à tout prix encore garder et chercher par des voies pacifiques à résoudre ce que vous-même vous avez allumé comme feu?
Ben, certainement qu'il y a eu quelque chose dans ce sens-là. Mais je crois qu'ils pensaient vraiment au départ que la négociation pouvait être possible en présentant des appâts des vélos. Mais l'opération s'est avérée inefficace, dans la mesure où je ne suis pas sûr qu'un Maïmaï n'a qu'une seule arme. Et par ailleurs, je considère pour ma part que les gens qui ont évolué dans une logique de violence ont besoin d'être aidés, d'être accompagnés, pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Ils ont complètement perdu le repère du fonctionnement normal d'une société et il n'est pas du tout l'essence des droits humains. Alors, il faut absolument qu'on puisse les accompagner et qu'il y ait une démarche de réinsertion et même une démarche de réconciliation pour qu'ils puissent retrouver la vie normale. Ou bien qu'on puisse carrément les orienter vers les camps de Brassage. Mais tout cela, c'est tout un processus. Et l'opération du PAREC, pour moi, c'est un raccourci dont les conséquences sont néfastes.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez poser des questions à nos invités? Par téléphone, composez-le 081 89 066 78.
Offensive des FRDC contre le Maïmaï de Gédéon dans le Nord Katanga. Quelle incidence sur l'ensemble du processus électoral? Dans 3 semaines exactement, les Congolais doivent se prononcer pour ou contre la Constitution. Ce sera le point crucial du processus électoral. Alors, quelle incidence ces attaques peuvent avoir sur le bon déroulement de ces opérations électorales? Une fois de plus, Paul Kaboba, Georges Kaboujou.
Paul Kaboba, tout à l'heure, on parlait des opérations militaires vraiment offensives engagées par les FARDC. Est-ce que ces opérations se déroulent vraiment sans bavure?
À l'heure où nous parlons, il n'y a aucun témoin indépendant dans le secteur des combats. Le fait qu'il y ait eu ces trois victimes civiles le samedi indique-t-il que des populations sont exposées soit au tir, soit à d'éventuelles exactions? C'est difficile à dire, mais dès le déclenchement de l'attaque, il y a eu des ONG pour demander que toutes les précautions soient prises pour éviter que l'on connaisse ce que l'on a connu en octobre 2015. Lors de la reprise de Kilwa par les FARDC. Il y a risque que les populations civiles soient confondues avec les Maïmaï, et là, tout est arrivé. C'est en tout cas ce que pense M. Gilbert Kanyumba-Kialoué. Il est le coordonnateur du service chrétien d'animation rurale du Katanga et son ONG opère à Pweto.
Gédéon serait en débandade. La crainte, c'est qu'on tue les paisibles citoyens hein, qui ne sont pas Maïmaï.
Georges, une autre crainte, c'est celle des Maïmaï de voir les FARDC faire des règlements de compte. L'un des délégués de GDO à Lubumbashi estime que le fait que les militaires qui sont en opération, qui sont les mêmes que ceux qui étaient dans les secteurs depuis l'entrée des Lasdel, pour lui, il y a un risque que ces soldats se vengent même sur des populations civiles.
Oui, Paul Kaboba, est-ce que on peut dire présentement là qu'il y a risque de voir les militaires des forces armées congolaises se venger ou même s'en prendre à la population civile?
Ce risque n'est pas à écarter. Certains hauts gradés de la province estiment que la police devrait prendre rapidement la place des militaires dans les villages libérés. Selon eux, seule la police est à même de vivre dans une certaine mesure en paix avec les civils. Une autre source d'inquiétude, Georges Kamzova, réside dans le fait que les militaires qui sont en action ne sont pas pour la plupart brassés. Ceux qui disent cela se basent sur le fait qu'en Ituri, par exemple, les troupes brassées se comportent plus ou moins convenablement. Enfin, ce qui inquiète un observateur indépendant, c'est aussi le fait que, contrairement à ce qui se fait soit au Kivu, soit en Ituri, l'armée ne dit rien sur ce sujet. Contrairement à ce qui se fait soit au Kivu, soit en Ituri, l'armée ne dit rien sur ce qu'elle fait. Pour cela, certains pensent que l'armée cache certaines choses.
Et si nous pouvons parler un peu de logistique, est-ce que les FARDC sont-ils bien nourris et bien équipés?
Comme je vous l'ai dit, l'armée impose un véritable blackout sur ses actions. Mais plusieurs sources disent que nos militaires manquent de nourriture ou n'en ont pas assez. Et là aussi, on peut voir qu'il y a risque que les militaires se nourrissent sur l'habitant. Je vous dirai à ce sujet, Georges Kamoujova, que déjà, quatrième jour de l'attaque, certaines personnes affirment que les FARDC ont manqué de munitions et de nourriture.
Paul Kaboba, pour aller un peu vite, que sont devenues les troupes des Gédéons puisque on a dit que les FARDC rencontrent très peu de résistance?
Plusieurs témoins disent avoir vu les hommes de Gédéon dans le territoire de Bukama, donc à près de 300 km de leur position initiale. La population est d'ailleurs très inquiète vu le nombre et l'armement que possèdent ces Maïmaï. Certains Maïmaï, je vous le dirai sans embâche, Georges Kamoujova, possèdent des grenades, des mitrailleuses et même des lance-roquettes. D'où viennent toutes ces armes? Mystère. Toujours est-il que, je vous le dis déjà, il y a des experts de l'ONU qui sont dans nos murs pour vérifier des allégations de violation de l'embargo sur les armes.
Paul Kaboba, merci beaucoup et bonne soirée à Lubumbashi.
Merci beaucoup Georges Kamoujova.
Georges Kamoujova qui interrogeait Paul Kaboba depuis Lubumbashi. On revient à vous, Monseigneur Fulgence Muteba. Il y a effectivement de craintes pour qu'il y ait des exactions de règlement de compte, des déstabilisations dans le territoire déjà libéré par les éléments FARDC. Est-ce qu'on peut compter que dans ce climat, on peut organiser les élections, on peut faciliter le déroulement des opérations électorales?
Eh bien, je crois que tout dépend de la volonté politique. Hein. Vous savez que l'épiscopat congolais revient très souvent sur cette question des volontés politiques. S'il y a suffisamment de volontés politiques, si on apporte de l'aide aux populations qui ont été libérées, comme elles-mêmes le disent, et si on organise rapidement la vie dans les villages qui ont été libérés, je pense qu'il peut être possible même qu'on organise les référendums. Figurez-vous qu'au départ du déclenchement des opérations, les généraux qui coordonnent l'attaque des FARDC avaient dit qu'ils en avaient pour 45 jours, et étant donné qu'ils n'ont pas rencontré beaucoup de résistance, du moins dans les 200 premiers kilomètres, il a même réduit le délai de ces opérations à deux semaines. Je pense que s'il y a une volonté politique réelle et si on prend toutes les dispositions qui s'imposent, il est possible effectivement que les opérations électorales se passent, se déroulent normalement.
Monseigneur.
Oui.
Mais justement, vous parlez d'une volonté, on vient de voir deux faits. D'abord, on ne communique pas, on cache l'information, ça c'est le premier fait. Deuxième fait, les militaires même qui combattent n'ont pas de nourriture, n'ont pas d'armes. Est-ce que ça témoigne de la volonté politique de bien faire?
Eh bien, pour en ce qui concerne le premier point, c'est un constat, mais je crois que ça peut relever peut-être de la stratégie militaire, parce que je suis convaincu que les Maïmaï ont tous les moyens de communication pour suivre tout ce que nous disons de ce côté-ci. En ce qui concerne le deuxième point, je ne suis pas très sûr parce que les sources diocésaines nous ont indiqué qu'il y a eu un renfort qui est arrivé à partir de Lubumbashi. Il y a des camions qui ont été envoyés. J'imagine que ce sont des camions de nourriture. Alors, je crois que, comme Paul Kaboba l'a dit, il n'y a pas de témoins indépendants, au moins dans la zone de combat. Et nous, l'information que nous donnons s'arrête à Itouaba et à Doubié principalement. Et à Doubié, effectivement, on a vu un camion de vivres arriver au profit de l'Unita.
Mais alors, dans cette situation-là où on ne sait rien de ce qui se passe réellement, on ne risque pas de voir l'armée, l'État devenir un danger pour la population qu'il a libérée?
Je ne pense pas parce que si l'intervention a été autorisée, c'est justement pour protéger la population, et je suis convaincu que ceux qui sont au pouvoir sont des gens qui ont quand même des sentiments humains. Bon, on a reçu ici une mission du gouvernement et il a été question, encore une fois, de l'intervention des FARDC dans le centre du Katanga. Et nous espérons qu'ils vont lier la parole à l'acte pour justement aider la population à retrouver le sourire.
Colonel Ibenga, vous venez d'entendre en tout cas la condition, le climat actuellement, surtout dans le territoire déjà sous contrôle FARDC. Est-ce que dans ces climats, on peut facilement permettre le bon déroulement des opérations, par exemple les opérations d'enrôlement et d'identification, parce que la majorité de ces gens ne sont pas encore enrôlés et identifiés, et aussi les opérations référendaires?
Évidemment, c'est une situation délétère hein, qui hypothèque le processus pour cette partie-là du Katanga. D'autant plus que la population n'est pas au courant de ce qui se passe. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, hein, le silence des autorités ne porte pas le moral de la population haut. Tout à l'heure, l'un de vos correspondants a épinglé le fait qu'au Kivu, en Ituri, il y avait une communication qui était instituée. Mais là, c'était parce qu'il y avait la MONUC, apparemment, qui assumait cela. Dans le cas du Nord Katanga, on n'a pas encore la présence de la MONUC, bien qu'il y ait eu deux compagnies qui avaient été envoyées pour soutenir cet effort. J'espère que ce soutien est effectif. Mais en passant, je salue la bravoure de ces militaires qui combattent dans ces conditions sont difficiles, comme on vient de le dire. Déjà, au quatrième jour ou quoi, il y a déjà des problèmes. Les gens n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de logistique, ils sont pas nourris. Bon, vous savez, il n'y a que les parachutistes qui peuvent tenir 3 jours, hein, tout au plus, sans un accompagnement logistique spécial. Mais les troupes d'infanterie, eux, doivent avoir leur logistique toujours suivant les troupes au front. Donc là, il y a quelque part, je crois, comme toujours, la faiblesse de l'organisation logistique, la faiblesse de moyens et tout ça, nous connaissons la litanie, on en parle tous les jours.
Est-ce que c'est lié, est-ce que ça ne témoigne pas d'une déficience de volonté, justement?
La volonté politique, à quel niveau? La volonté politique peut s'exprimer de diverses façons. Il peut s'agir d'un manque de capacité d'opérationnalisation des décisions qui sont prises. Parce que les moyens financiers ou logistiques ne sont pas arrivés au même moment qu'on planifie les opérations. Ou encore que, au niveau inférieur, et là nous avons, quelqu'un a fait allusion à des problèmes de règlement de compte, il peut y avoir un problème de discipline. Quand les troupes qui étaient là pendant la guerre s'y trouvent toujours et sont confrontées aux Maïmaï qu'ils avaient combattu à l'époque et qu'il n'y a eu aucun effort de réconciliation, comme avait dit Monseigneur Frigence Moteba, donc il y a là un problème de cohabitation qui fasse que ces troupes doivent, je crois, quitter rapidement cette région pour aller ailleurs. Il faut emmener là-bas des troupes fraîches qui n'ont pas eu de litige avec la population, plutôt que d'envoyer les mêmes troupes combattre cette population, parce que Maïmaï, c'est qui? c'est un civil armé en général, donc la population peut être confondue avec les Maïmaï assez facilement, sans pourtant chercher forcément à dissimuler la population, mais par dégâts collatéraux ou par erreur de ciblage, on peut tomber sur la population et éventuellement lui causer des dégâts. Donc il y a tout ça qui doit être en jeu, je crois que l'état-major général est parfaitement au courant de ça, et qu'il faille, à mon sens, mener une campagne d'information par les territoriaux, par d'autres moyens, et également rappeler les soldats qui sont envoyés au front à une retenue quant à exprimer leur esprit de revanche éventuelle sur les populations supposées Maïmaï.
On va passer maintenant aux questions de nos auditeurs. Nous demandons à nos invités de répondre brièvement à toutes ces questions et rapidement, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de cette émission. De la Croix Malengue, de Kisangani, province orientale, comment l'armée régulière est-elle accueillie par la population? C'est la question posée à monsieur, à Monseigneur Fulgence Moutiba.
Comment les gens... des populations qui affluent sur Doubière. Bien, pour eux, comme je l'ai dit, c'est vraiment une libération, hein, parce que nous n'avons pas eu le temps de vous relater tout ce que la population a connu. Hein. Juste pour donner un exemple, il y a quelques personnes qui s'étaient échappées pour venir se faire enrôler à Doubié, quatre personnes, et quand elles sont rentrées, quand elles ont montré leurs doigts qui étaient mouillés d'encre, bien, on leur a arraché les oreilles. Alors, quand ils voient des femmes c'est arrivé, pour ces gens, c'est vraiment une libération. Alors, donc, les militaires sont accueillis très joyeusement, c'est ainsi que les gens se précipitent pour quitter la région et rejoindre des régions plus paisibles vers le sud.
On va poser une autre question, c'est de Guy Mutombo, à Bounia, province orientale. Dans ces attaques, les FARDC ne confondent-ils pas des paisibles citoyens au Maïmaï? En fait, vous venez d'ailleurs de reprendre cette question.
Il faut être au front pour le savoir, mais tout ce que je sais, c'est que il y a 3 blessés civils qui sont arrivés à Doubié il y a quelques jours et qui ont été évacués sur Bukavu par la Croix-Rouge internationale. Mais à part ces 3 blessés, nous n'avons pas vu de blessés à Doubié au moins. Alors ce qui signifie que la stratégie que les FARDC utilisent fonctionne peut-être bien, mais il y a eu des combats, je crois, du côté de Mitwaba, à 30 km de Mitwaba. Et là, c'est un peu plus loin de Doubié. Il est difficile d'avoir des nouvelles de ce côté-là.
Voilà, il y a des questions maintenant au colonel Ebenga. Trish Mastaki de Bukavu, Sud-Kivu. Comment expliquer cette confusion, du moins du point de vue politique et militaire? On sait que les Maïmaï sont aujourd'hui organisés en partis politiques.
Oui, vous savez, le dialogue intercongolais a permis aux forces armées de se muer en partis politiques. C'est ce qui se fait. Malheureusement, beaucoup de ces forces politiques gardent leur cordon ombilical très dynamique et très organique avec certains anciens officiers, hommes de troupes qu'ils avaient sous leurs ordres. Donc cela pose effectivement quelques problèmes. On espère qu'avec l'intégration et la politisme qu'on veut imposer à l'armée, que cela cessera.
Comment un chef de guerre peut-il s'opposer à l'armée gouvernementale au point de chercher à nuire aux élections? Quelles armes possède-t-il et combien d'hommes? C'est la question de Lokana Mbappé de l'Ituri, province orientale.
Bah, apparemment, on dit qu'il y a près de 1000 hommes à disposition de ce Gideon. Donc c'est un peu un bataillon plus. Donc il dispose d'hommes. Mais je crois que le problème, le tort que nous avons, c'est de chercher à intégrer dans l'armée nationale tout élément qui était armé jadis. Je crois que c'est un tort, parce que vous avez, comme a dit Monseigneur tout à l'heure, des gens qui sont des vandales. Ceux-là, même s'ils étaient incorporés dans l'armée, ils restaient des vandales. Nous aurons une armée de vandales, malheureusement. Donc il faudrait, à mon sens, arrêter le recrutement et sélectionner. On ne peut pas prendre tout le monde qui veut venir, une fois défait, après avoir causé des problèmes. Il est défait par les troupes normales nationales, il est intégré de l'armée nationale, je crois que ce n'est pas juste.
Les opinions des auditeurs, François Kalulenga de Kalemie Katanga. L'armée est à mesure de reconquérir cette zone avant le 18 décembre. Bienvenue de Lubumbashi au Katanga. Le gouvernement est à la base de cette situation. C'est le résultat du ralentissement du processus d'intégration. Paul de Bukavu, au sud Kivu, courage à nos soldats malgré le manque d'équipement. Que nos autorités réduisent leur train de vie pour mettre ces fonds à la disposition des militaires. Fabien Ndegou de Lubumbashi, que le FRDC fasse leur travail et arrive à bout de ses hommes de Gédéon. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à Fulgence Muteba, monseigneur de Kilwa, qui a intervenu dans cette émission depuis la ville de Lubumbashi. Merci à vous, Jacques Ebenga. Je rappelle, vous êtes expert en questions de défense et de sécurité. Merci à vous aussi, les auditeurs. Vous étiez nombreux à nous envoyer vos questions, vos opinions. Désormais, signez vos opinions, signez vos messages pour lui donner toute sa valeur. On se retrouve demain pour un autre numéro de Dialogue en Congolais.